Vous êtes sur RTL.
Vous écoutez RTL et il est 10h.
Alors, bonjour Flavie, bonjour à tous. Alors que la France commémore la disparition de Samuel Paty, le ministère de l'Intérieur annonce avoir identifié une vingtaine de profils particulièrement actifs pour leur discours anti-républicain. On sera avec Christian Gravel en charge de ce dossier radicalisation pour le gouvernement. Vous entendrez ce document RTL, le témoignage poignant d'un fils dont le père est entendu dans l'enquête sur la mort de cette septuagénaire décapitée à Agde. Pour lui, c'est l'incompréhension totale. Emmanuel Macron va devenir le premier président à reconnaître une vérité historique et incontestable dans la répression des Algériens à Paris lors d'une manifestation il y a 60 ans. Et puis Vladimir Kosma, l'homme aux 500 musiques de film, de retour au Grand Rex hier soir. La météo, c'est avec vous Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Avec un beau temps. Hein.
Oui, ça va venir. Alors c'est vrai que par endroits, il y a encore beaucoup de brouillard ou des nuages bas, notamment sur la moitié nord. Ils vont parfois localement tarder à se lever, mais ça finira par arriver. On peut juste dire qu'au nord de la Seine, entre la Normandie, les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne ou encore la Lorraine, on aura des passages nuageux peut-être un petit peu plus nombreux qu'au sud, mais vraiment pas grand-chose. À noter quand même quelques averses en Corse, notamment dans le sud de l'île. Les températures cet après-midi, 16 degrés à Saint-Étienne, 17 à Annecy, 18 à Paris, à Caen et à Auxerre, 19 à Brest, 21 degrés pour Bordeaux et 22 à Marseille.
Merci Valérie.
RTL, le 10h, Hortense Crépin.
C'était il y a un an, jour pour jour, Samuel Paty était assassiné par un terroriste à Conflans-Sainte-Honorine. Les commémorations pour se souvenir du professeur continuent aujourd'hui. Dans une demi-heure, une plaque sera dévoilée au ministère de l'Éducation nationale en présence de la famille de l'enseignant Marie Garrier.
Oui, les parents de Samuel Paty qui sont tous deux enseignants retraités, ils vont s'entretenir dans quelques minutes avec le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale, puis viendra ensuite la cérémonie officielle en présence notamment d'anciens ministres de l'éducation. La plaque sera dévoilée, une plaque en verre. Il est écrit en lettres noires « Hommage à Samuel Paty, professeur d'histoire, géographie et d'enseignement moral et civique, assassiné par un terroriste islamiste pour avoir enseigné et défendu les valeurs de la République, dont la liberté d'expression. » Cette plaque sera posée à l'intérieur du ministère, dans le hall, face à l'entrée. Nul ne pourra franchir le seuil sans la voir.
Marie Guerrier au ministère de l'Éducation nationale pour RTL. Et concernant les commémorations, hier dans les classes, 98 incidents ont été répertoriés, dont 7 sont des menaces proférées par des élèves. Il s'agit le plus souvent de cas isolés. Et c'est dans ce contexte que le ministère de l'Intérieur a dévoilé cette nuit que l'unité de contre-discours républicain lancée après l'attentat pour lutter contre l'islamisme sur les réseaux sociaux a identifié une vingtaine de profils dits particulièrement actifs. Bonjour Christian Gravel, vous êtes en charge pour le gouvernement de ce dossier de lutte contre la radicalisation en ligne dans cette unité qui analyse, explique et lutte contre ces propos haineux depuis un an. On a donc eu les premiers résultats cette nuit, donc une vingtaine de profils identifiés comme particulièrement actifs. De quoi on parle ? De personnes, d'organisations ?
On parle à la fois parfois de personnes qui ont des responsabilités, de personnes morales bien entendu, d'organisations, vous avez raison, dans un contexte qui est celui caractérisé aujourd'hui sur les réseaux sociaux, de horde numérique, de sympathisants ou de militants politiques, puisqu'il s'agit vraiment de démarches politiques, avec des milliers et des milliers d'interactions. On a identifié effectivement une vingtaine de comptes constituant le cœur même de ces logiques-là, à travers une capacité à mobiliser de leur côté plusieurs internautes, des centaines, plutôt des milliers, pouvant être en mesure de relayer des contenus particulièrement toxiques et dangereux, étant donné la nature des propos échangés.
Et donc justement, c'est quoi la suite maintenant pour cette vingtaine de profils ? Est-ce qu'il va y avoir des procédures devant la justice ?
Il y a la loi qui doit être appliquée. Évidemment, nous sommes extrêmement vigilants à la teneur de ces propos. Mais derrière, c'est l'idée de pouvoir démontrer toute l'imposture qui se cache derrière ces propos visant à faire vaciller la République.
Est-ce que cette unité a permis d'éviter des attaques, des faits de radicalisation concrètement ?
Je ne suis pas en mesure de vous dire si cela a permis d'éviter des attaques. Ce qui est clair, c'est que si nous ne faisions rien par rapport à ces logiques-là, nous pourrions évidemment continuer à assister à un certain nombre d'actes de type terroriste, puisque précisément, je pense par exemple à l'individu qui avait égorgé une policière dans un commissariat à Rambouillet. Il s'agissait d'une personne qui a, on l'a pu le constater, passé des heures sur les réseaux sociaux, qui initialement en 2015 avait soutenu la France lorsqu'elle avait été confrontée à la vague d'attentats terroristes et qui progressivement, à force d'être abreuvée par des contenus de type séparatiste, a basculé des contenus bien identifiés à travers des associations, des ONG, et qui en fait derrière ont une vocation à caractère extrémiste. Et donc, il était plus que nécessaire d'investir ce champ, et c'est ce que nous faisons au quotidien au sein de cette unité.
Merci beaucoup Christian Gravel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc en charge pour le gouvernement de ce dossier de lutte contre la radicalisation en ligne.
Merci.
10h05 sur RTL, l'actualité, c'est aussi un profil qui se précise, celui de cet homme en garde à vue pour le meurtre d'une septuagénaire à Agde. Il dit n'avoir aucun souvenir du crime et parle de troubles de mémoire. Et document RTL ce matin, Patrick Tégéraud a pu rencontrer son fils et il est totalement retourné.
C'est l'incompréhension d'abord qui a pris le dessus et ensuite le déni. Je ne sais pas où me mettre, dans quelle case, comment réagir. S'il est innocent, coupable, j'en sais absolument rien.
Il y a des charges très lourdes qui pèsent contre lui. C'était quelqu'un qui était connu pour être violent. Est-ce que c'est un geste que vous auriez pu imaginer de sa part ?
Non, absolument pas. Il était boxeur, certes, mais bon, il montait vite dans les tours, mais de là à lever la main, il y avait quand même une grande marge.
Et quelle relation avait-il avec cette femme qui est désormais sa victime, Evelyne ?
Très bonne question. C'était une ancienne amie de la famille et là, je sais pas ce qui s'est passé. Ma mère, tout d'abord, elle a aidé Evelyne justement via son métier. Elle faisait le ménage, etc. pour ces deux personnes-là.
Ça paraît d'autant plus incompréhensible, étant donné les liens qui vous unissaient.
C'est ça. C'est pour ça que j'arrive pas réellement à comprendre.
Ce document RTL, le témoignage du fils du principal suspect dans le meurtre de cette retraitée. Il répondait à Patrick Tégéraud. 17 octobre 1961, la police, sous l'autorité du préfet Papon, tire sur des manifestants algériens pendant un rassemblement à l'appel du FLN. Bilan officiel, 3 morts. Les historiens, eux, en comptent au moins 150. Et Emmanuel Macron devrait, pour la première fois, reconnaître cet après-midi une vérité historique et incontestable, Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, la présence d'Emmanuel Macron sur le pont de Beson a un caractère exceptionnel. Fait valoir l'Élysée, c'est la première fois depuis 1961 qu'un président de la République en exercice se rend physiquement sur les lieux du massacre. Cette présence elle-même dit la reconnaissance des faits, souligne encore l'Élysée. Il y a 9 ans, le prédécesseur d'Emmanuel Macron, François Hollande, avait officiellement reconnu la tragédie. Le président ira plus loin, affirme l'Élysée, sans pour autant dévoiler jusqu'où. Il ne fera pas de discours, mais un communiqué sera diffusé à l'issue de la cérémonie. Le rôle de la préfecture de police dans la répression devrait y être évoqué. Le chef de l'État ne présentera pas d'excuses, un mot récusé par l'Élysée qui lui préfère celui de pardon, car il suppose que l'autre partie accepte, comme en septembre avec les harkis. Le contexte des relations tendues avec l'Algérie n'a pas joué dans la décision de cette démarche, assure l'Élysée. C'est un événement qui appartient à notre mémoire nationale et quelle que soit la qualité des gestes pour les autorités algériennes, c'est rarement suffisant, rarement pertinent.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL. Une pause et dans un instant, quand les élus prêtent serment pour ne pas parrainer de candidats à la présidentielle. A tout de suite.
RTL Matin. RTL, le 10h, Hortense Crépin.
10h10 sur RTL, à moins de 6 mois de la présidentielle, la course au parrainage pour les candidats a commencé pour récolter les 500 fameuses signatures, mais certains n'ont clairement pas l'intention de prendre leur stylo. Dans une heure, à Romainville, une cinquantaine d'élus va prêter serment pour n'accorder aucun parrainage tant que la gauche avancera divisée. Parmi eux, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, mais aussi le maire de Romainville, François Dechy.
Dans nos communes, vous avez des majorités constituées de citoyens engagés, de militants de différents partis de gauche et de l'écologie. Ce débouché politique, on ne l'a pas au niveau national. Donc c'est un appel à la responsabilité. Nous, on fait le pari que les aspirations du peuple de gauche, des citoyens engagés pour l'écologie, pour la justice sociale, pour une rénovation de notre démocratie, elles sont convergentes et elles peuvent se rassembler autour d'une seule candidature.
François Dechy avec Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. En football, le coup d'envoi hier de la 10e journée de Ligue 1 et la victoire controversée de Paris à 3 jours de la réception de Leipzig pour la Ligue des Champions. Les hommes de Mauricio Pochettino se sont imposés 2-1 face à Angers, grâce notamment à un pénalty de Kylian Mbappé accordé malgré une faute parisienne juste avant. La suite de cette 10e journée, c'est à 17h avec Clermont-Lille et à 21h. Lyon reçoit Monaco. L'OL pour le moment 10e, mais qui va bientôt attaquer une grosse série. Nice, Lens, Rennes, Marseille. Il faut donc se relancer et vite pour l'entraîneur Peter Bosch.
En ce moment, on mérite d'être là parce qu'au début de saison, on a mal joué. Et là, on n'a pas pris beaucoup de points. Après, on a beaucoup mieux joué. On a progressé dans notre jeu, mais on joue mieux. Donc finalement, on mérite d'être là aux 10e position, mais on est proche des places haut de nous. Et les matchs à venir, ce sont vraiment des matchs contre les équipes qui sont devant nous. De jouer contre l'équipe, le niveau de Monaco, c'est bien sûr difficile, mais c'est pour moi plutôt intéressant.
Peter Bosch au micro RTL de Raphaël Vantat. Rencontre à suivre dans RTL Foot. Rendez-vous dès 20h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Juste avant, à 18h30, vous retrouvez Christian Olivier, Philippe Sanfourche et les chroniqueurs dont refait le match. Et puis, il ou elle avait une chance sur 139 millions de remporter le jackpot. Un Français a remporté hier le plus gros gain jamais gagné à l'euro million, 220 millions d'euros. La combinaison du bonheur, c'était 21, 26, 31, 34, 49 et les deux étoiles, 2 et 5. Le ou la gagnante a maintenant 60 jours pour se faire connaître auprès de la Française des Jeux. Enfin, la boum, le grand blond avec une chaussure noire, Rabbi Jacob, tous ces films ont un point commun, une BO culte signée Vladimir Kosma, le compositeur, a démarré hier une série de 3 concerts au Grand Rex à Paris où il revisite avec 180 musiciens ses plus grands succès.
C'est une forme de joie. Il y a aussi beaucoup d'émotions. Le public n'a pas oublié avec la mélodie qu'on existe. Voilà, je suis très content de les retrouver, de jouer les musiques qu'ils aiment et que j'aime aussi. Il y a quelque chose qui vient de Dieu, de plus haut, une mélodie qui vous tombe dessus. Je la choisis, je la fais mienne, mais c'est le bon Dieu qui me l'a donnée.
Préparez-vous, le légendaire Richard Sanderson. Dreams of my reality.
À bientôt. Bonne soirée, à bientôt.
Ouais, cette musique du grand blond avec une chaussure noire pour terminer. Vladimir Kosma au micro RTL de Laurent Marsic. Les courses ont lieu à Auteuil avec les pronostics de Dominique Cordier aujourd'hui. Le 5, le 6, le 4, le 13, le 2, le 14, le 16. La dernière minute, c'est le 4. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong, justement, il est 10h et presque 15 minutes sur RTL. Et dans un instant, on vous retrouve Jean-Michel Zeka, Louis Petit-Renaud, Jean-Sébastien Petit-Demange pour RTL vous régale.
Ouais.
Direction les Deux-Sèvres, je crois, vers Niort, ces environs.
Ah, exactement, dans quelques instants.
Voilà.
Non, mais on vous entendait, on vous écoutait religieusement, Hortense. On faisait quand même 220 millions d'euros et on se posait la question tous les trois de savoir ce qu'on ferait avec ça.
On peut ouvrir un restaurant, j'espère.
Même pas, on s'est dit qu'on s'achèterait l'équivalent du tour du monde en kilomètres de saucisses de morteau.
Oui, c'est pas mal aussi. On va calculer combien on peut en avoir.
Merci, Hortense.